Que le Seigneur accueille ces chants, nos cœurs, nos pensées. Nous allons parler sur le pardon et la réconciliation. Je ne sais pas ce que vous penseriez d'un médecin. Vous allez le voir, vous vous êtes cassé le poignet. Et il vous dit, c'est pas très grave, madame. Vous allez prendre ce soir un grand verre de jus d'orange. Et demain, ce sera terminé. C'est pas sérieux. Mais peut-être que nous n'allons pas au bout des choses aussi. Là, il fallait des radios, il fallait un examen. Et je pense que dans nos vies, il y a un examen très important. On peut chanter, crier, courir, mais si nous n'avons pas vécu le pardon donné aux autres, la réconciliation, je pense que nous sommes des malades qui prennent un grand jus d'orange pour se guérir. Nous ne guérissons pas. Je voudrais lire une histoire de pardon. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, une histoire de réconciliation. C'est l'histoire de Joseph, dont nous avons tous entendu parler. Joseph et ses frères, quelle histoire! On va lire quelques versets qui vont nous remettre dans l'histoire de ce pardon magnifique. Genèse 45, verset 1er. Donc nous connaissons Joseph, jalousé par ses frères, bousculé, jeté dans une citerne, dénudé, vendu. Et il part en Égypte et on ne sait pas où, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Il va passer des années en prison. Et puis des événements économiques, écologiques, la famine, la sécheresse, vont ramener ses frères vers l'Égypte. Et ses frères vont découvrir Joseph, sauveur de l'Égypte. Mais ils ne le reconnaissent pas. Il a changé. 13 ans plus tard, on lit ensemble, Genèse 45, Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient quand il a revu ses frères. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph !»« Mon père, vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et encore 5 années encore, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, c'est Jacob, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas, etc. » Amen. Belle histoire. Et 3 mots dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3 et verset 12. Colossiens, sur le pardon et la réconciliation. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Bénis ton serviteur, bénis ton Église, que ta parole soit la manne, soit le miel dont notre âme a besoin pour reprendre ses forces et continuer la course. Amen. Frères et sœurs, il nous faut dire un mot ce matin sur le péché, le pardon, la réconciliation. Nous voyons mal nos péchés. On a besoin d'un collyre sur nos yeux. C'est Jésus qui le dit, pour voir nos péchés. Même s'ils sont énormes comme une poutre, on a lu tout à l'heure, on ne les voit pas bien. Je connais le péché par une révélation. L'apôtre Paul disait, j'ai connu le péché par la loi. Il pourrait dire aujourd'hui, j'ai connu le péché par la Bible. C'est Dieu qui nous dit ce qu'est le péché. Et je connais le péché, mon péché, par le Saint-Esprit, qui me convainc, qui me montre ce qui est mal. Je connais aussi le péché par ma conscience. Mais je fais attention à la conscience. Je fais attention aux intuitions. On ne ressent pas tout avec sa conscience. Une dame avait commis un péché grave et elle me disait, mais j'ai ma conscience pour moi. Il y a des péchés qu'on ignore. La conscience ne réagit pas devant certains péchés. Ne mettons pas notre conscience au-dessus de la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, il y a une mode. Dans les églises, partout, des gens disent « je suis en paix », commettent toutes sortes de mauvaises paroles, des actes. Puis les gens disent quand même « je suis en paix avec moi ». Comme si cette paix était le signe qu'il n'y avait pas de mal. Je voudrais leur dire, êtes-vous en paix avec Dieu? Que dit le Seigneur sur votre situation? C'est une mode. Tant qu'on est bien avec soi, eh bien, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas ça dans la Bible. Notre conscience, elle perd de plus en plus ses capacités. Parce qu'on est dans un monde où on confond le bien et le mal. Et ça déteint sur nous. Notre conscience perd ses capacités de distinguer le bien et le mal. La Bible dit, les hommes avanceront toujours plus dans le mal, égarés et égarant les autres. C'est quoi le mal aujourd'hui ? Le mal, c'est tout ce qui contredit nos désirs, non? C'est ça dans le monde. Et le bien, c'est tout ce qui fait plaisir, même si c'est mal aux yeux de Dieu, sans que ça nous fait plaisir, tant qu'on en a du plaisir, c'est bien. Voilà ce qu'on dit dans le monde. On appelle le bien mal, on appelle le mal bien. Mais ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est bien et mal. Ce n'est pas moi qui décide de l'heure. Il est 11h moins 10 peut-être. Ce n'est pas moi qui décide. Par conséquent, il nous faut un examen de conscience sérieux devant Dieu. Il faut retrouver devant Dieu ce que les chrétiens des années 1800 appelaient la sainteté. La sainteté de vie. Il faut se placer devant Dieu avec la vérité de son cœur. Voilà ce que je suis. Et la vérité de Dieu face à nous. Que dis-tu de moi ? Montre-moi, conduis-moi, nous l'avons lu au début, conduis-moi dans ta vérité. C'est important. Nous ne réussirons pas à faire une église qui évangélise et dans laquelle le Seigneur peut faire des belles choses si nous gardons le péché tapis au fond de nos cœurs. Jésus nous montre dans l'évangile que le péché, ce n'est pas une simple bêtise. Parfois, j'entends ça. J'ai trompé ma femme, j'ai fait une bêtise. Ce n'est pas une simple erreur, le péché. Le péché est un acte qui heurte l'amour de Dieu. Comme si votre enfant crachait au visage de votre voisin. Vous seriez heurté dans votre amour. Le péché déchire l'alliance entre Dieu et nous. Le péché méprise son amour. Regardez Jésus à la croix. Il est déchiré, méprisé. C'est notre péché. Le péché n'est donc pas un dommage seulement contre nous, mais c'est une blessure contre Dieu, contre l'Église, contre le Saint-Esprit. Je crois profondément au Saint-Esprit. Et je vis avec, selon le Saint-Esprit, chaque jour. Mais je crois aussi que les péchés dans l'Église attristent le Saint-Esprit, résistent au Saint-Esprit. Des jugements, des paroles, des condamnations, des divisions, des blessures faites aux frères, aux pasteurs, aux plus petits, C'est un péché contre le Saint-Esprit. Regardez le fils prodigue. Quand il est parti dans sa débauche, le Père a été blessé. Nos péchés blessent Dieu. Nos péchés blessent le Saint-Esprit. Le Père a été blessé. Le Père attend. Le Père embrasse le fils prodigue qui revient. Le Père annule les conséquences de sa folie. Nos péchés blessent Dieu. Et c'est pourquoi parfois nous disons, Seigneur, envoie-nous un réveil, parce qu'on sent que des choses ne vont pas. Allons nous faire un scanner de notre âme. Il faut régler des choses. Parce que si nous les reconnaissons vraiment, je pense qu'il y aura un changement de vie possible, comme le fils prodigue. Le Seigneur nous dira, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il faut que les frères et sœurs de l'Église et moi-même, chacun, nous puissions reconnaître notre péché. C'est ça, vivre le salut. Vivre le salut, ce n'est pas frapper des mains toute la matinée. C'est reconnaître qu'on a fait des fautes. C'est travailler à son salut. S'examiner chaque jour. Sinon, dira l'apôtre Paul, Satan a de l'avantage sur nous. Il le dit dans les Corinthiens. Si vous ne pardonnez pas, Satan a un avantage sur vous. Il a mis un pied dans la maison. Il a mis un pied dans l'église. Vous vous rappelez le pharisien dans le temple? Merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. sont des ravisseurs, des voleurs, des adultères, des menteurs. Moi, je jeûne, je donne ma dîme. Marquez, c'est bien déjà, parce qu'il y en a certains qui ne donnent jamais leur dîme, certains qui prient jamais. Mais cet homme, ce pharisien, on a l'impression qu'il peut être bien devant Dieu sans la miséricorde de Dieu, comme s'il était parfait, presque parfait. C'est ça le péché. Ne pas avoir conscience que nous avons fait tort à Dieu, à l'Esprit-Saint, à l'Église. Le péché, c'est lâcher la main de Dieu. Pour moi, c'est un geste suicidaire. Car quand on commet des fautes envers son prochain, son mari, sa femme, ses frères, je pense qu'il y a un trouble dans notre équilibre intérieur. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi. Notre intelligence s'obscurcit. On ne voit plus certaines choses. On a une ignorance sur Dieu. On devient sourd, endurci, le péché endurci. Il y a la guerre dans notre âme. Satan a ouvert une porte et il entre. Satan qui fascine, qui est le séducteur, peut entrer chez nous. Le péché cause un dommage considérable à tout le monde. Jésus disait, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Dans l'Église, chacun de nous sommes des petits, des enfants de Dieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. On écoute ces paroles ? Mystère du péché, on blesse Dieu, on blesse les autres, on se blesse soi-même. Ne dites pas c'est Dieu qui, c'est Satan qui me pousse. Le péché est un acte volontaire, un acte libre, mais il a des racines dans le monde de Satan. Jésus disait, celui qui pêche est du diable. Jésus disait aux Juifs, vous avez pour père le diable. Quand on commet le péché, le diable nous bénit. Il nous conduit plus vers le mal. Voyez-vous, dans toutes ces choses que je vous dis, notre conscience ne voit pas clair. Notre conscience, elle ne connaît pas Dieu. Notre conscience, elle nous trompe. Il faut écouter l'Évangile pour ne pas se tromper. Notre conscience, c'est une voix intérieure, mais qui est noyée par l'esprit du monde. On est dans un monde bruyant de distractions, d'impudicité. On ne craint pas de montrer ses formes et son sexe. Et puis, dans ce monde-là, notre conscience, eh bien, finit par dire ben, « c'est pas si mal que ça ». Notre conscience est une voix fragile qui est étouffée par l'habitude de pécher. Plus on pêche, moins on entend Dieu, le son de la trompette. On n'entend plus le son du coq. Pierre l'a entendu, le son du coq, le cri du coq. Le coq ne chantera pas deux fois que tu m'aies renié trois fois. Et quand il a entendu le coq, il s'est dit « j'ai péché ». On ne l'entend plus, le coq. Il faut que notre conscience soit nourrie, frères et sœurs, par la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit éduquée. Il faut qu'elle soit à l'écoute de Dieu. Je ne sais pas, les frères de Joseph, moi c'est un mystère. Il y a un petit vitrail là-bas sur les frères de Joseph. Joseph qu'il jette dans le puits. Il est bien, ça me sert à prêcher l'Évangile aux journées du patrimoine. Mais pensez-vous aux frères de Joseph ? Pendant des années, leur père ne savait pas que ses enfants avaient vendu Joseph. Il ne savait pas que Joseph était parti en Égypte. Il le croyait mort. Et pendant des années, ils vont pleurer avec leur père. Il n'y en a pas un qui a dit « on va quand même dire à papa qu'il n'est pas mort, Joseph ». pas un, pendant 13 ans, ils se sont cramponnés. Pas un n'a dit, on va quand même dire à notre papa que tout ça, c'est une histoire qu'on a inventée et que Joseph, il est quelque part vivant en Égypte. Ils ont laissé leur père mourir, enfin descendre dans la vieillesse, sans le rassurer. 13 ans. Où est leur conscience? Frères et sœurs, je vais aller rapidement vers la fin en vous parlant du pardon et de la réconciliation. Parce que Jésus, il nous a montré la nécessité d'un pardon mutuel entre nous pour obtenir le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Ensuite, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La mesure avec laquelle nous allons pardonner aux autres, c'est la mesure avec laquelle Dieu va nous juger. Vous y pensez? Si vous êtes impitoyable, faisons attention à nous. Vous connaissez la parabole du serviteur impitoyable? Un serviteur, le maître, il a fait des erreurs, il a commis des fautes dans ses comptes et il devait 300 milliards à son maître. C'est une somme astronomique. Avec ça, la France pourrait se relever. Et le maître a dit, bon, allez, ça va. On efface. C'est beau, hein? On efface tout. Bon, allez, on n'en parle plus. Et ce serviteur, en sortant de chez son maître, il rencontre un ami. Un ami qui lui doit 70 euros. Il prend l'ami, il l'égorge. Paie-moi ce que tu me dois. Je te paierai. Non, paie-moi ce que tu me dois. Le roi a récupéré son mauvais serviteur, impitoyable, et il l'a livré au bourreau. Il l'a jeté en prison. Les personnes qui refusent de pardonner, les personnes qui ne demande pas pardon, s'exclut de la miséricorde de Dieu. Jésus conclut la parabole en disant, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. » Moi, je prends ça avec sérieux. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. » Et parfois, il nous arrive dans la vie des choses difficiles. On a l'impression qu'il y a un bourreau qui s'acharne sur nous. Parce qu'on a été sans pitié avec quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. J'écoute bien. L'apôtre Paul dit, celui qui vous trouble en portera la peine. Celui qui vous trouble en portera la peine. Notre prière ne sera pas agréable à Dieu, même si elle est très belle, chantée à quatre voix, même si c'est très beau au niveau artistique. Notre prière ne sera pas agréable à Dieu s'il n'y a pas de notre part un effort de réconciliation, de pardon, de réparation. Si nous faisons cela, notre offrande est agréable et pure. Nous devons pardonner et nous devons demander pardon. Amen. C'est difficile, hein? On ne va pas régler cela tout de suite, hein? Parce que notre vie charrie des fardeaux, des tonnes de conflits destructeurs. Quand Joseph a vu ses frères arriver, ses frères ne l'avaient pas reconnu, mais lui, il les a reconnus. Et j'imagine que dans sa tête, il a dû penser, oh, ils m'ont jeté dans la citerne, ils m'ont mis tout nu, ils m'ont vendu, ils m'ont abandonné. Il a dû penser à tout cela. Pas facile le pardon. Le prophète Zacharie, il dit, le pardon, c'est une masse de plomb au fond de ton cœur, mon frère, ma sœur. Mais il ne faut pas demeurer prisonnier du passé. Joseph, en voyant ses frères, n'a pas dit, bon, maintenant, on règle nos comptes. Venez, les frères, je vais vous montrer ce que vous avez fait. Je pense qu'il faut un effort de réconciliation, de réparation, pour regarder le passé différemment. Et voyez-vous, s'il a dit Joseph, il n'a pas dit « vous êtes des minables ». Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous ». Dieu change le mal en bien. Parfois, on me fait beaucoup de mal, mais je m'efforce de dire « Dieu peut changer le mal en bien ». Parfois, on a voulu même me tuer, mais physiquement. Mais Dieu peut changer le mal en bien. Et il dit, c'est pour vous sauver la vie que je suis là. Oh, les frères, il faut regarder les choses positivement. Amen. Parce que si on continue de se mordre les uns les autres, qu'est-ce que tu m'as fait hier? Qu'est-ce que tu m'as fait il y a 3 ans et demi? Nous allons, dira l'apôtre Paul, nous détruire les uns les autres. Et c'est vrai, dans un couple, si on s'arrête sur une histoire du passé, si on ne la digère pas, si on ne la transforme pas, on va se déchirer et se détruire. Donc, frères et sœurs, il faut demander le pardon des autres. Il faut donner le pardon. Il faut réparer des paroles dures, des regards durs, du mépris qui ont blessé les autres. Et ça, ce sont des gestes dignes des chrétiens. Ça, c'est être chrétien. Jésus, il a lavé les pieds des disciples, vous le savez, en disant, je vous ai donné un exemple. Voilà comment vous devez faire. Vous ne devez pas vous nourrir de mépris, de hauteur, vous devez être simple, humble. C'est l'unique façon de se libérer des situations de conflit qu'il pourrait y avoir dans nos familles, dans l'Église. C'est la seule façon de garder l'unité que donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour unir. Parfois, les gens disent « le Saint-Esprit ». Oui, ma sœur, il est là pour que tu t'arrêtes de parler mal et afin qu'on soit unis ensemble. Amen. C'est la seule façon. Le pardon, la réparation. Pas seulement le pardon, parce que quand on pardonne, c'est qu'on a déjà été blessé. Mais l'autre, il a besoin de réparer des choses. Celui qui a blessé son frère, il faut qu'il répare. C'est la seule façon de se relever d'entre les morts pour que Christ nous éclaire. Le pardon exige la vérité. Il faut que le mal soit reconnu. Dur, ça. Il faut qu'il soit manifesté dans la lumière. Pas forcément devant tous en public, mais il faut qu'il soit reconnu, confessé, réparé. Il faut qu'il y ait, même si on vous dit « je te pardonne », on n'en parle plus, il faut réparer. Quelqu'un qui vole la voiture de son voisin, ce n'est pas à faire. Puis le voisin, il vous dit « bon, bah écoutez, je vous pardonne ».